Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Amélie Chauvet.
Aujourd'hui, vous interrogez la posture des grands partis britanniques face au Brexit.
Voilà, à propos du congrès du Parti conservateur qui se termine aujourd'hui, notre invitée Pauline Schnapper, qui est professeure de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. Alors le Brexit, on le sait, est un événement intra-européen fondamental, c'est un événement international aussi, par-delà. Alors quoi qu'il en soit, l'activation de l'article 50, ouvrant une période de 2 ans minimum de négociations avec Bruxelles, sera demandée par Londres d'ici fin mars 2017. C'est la première ministre britannique qui l'a dit il y a quelques jours. Alors, il faut s'interroger sur les deux grands partis de gouvernement. Compte tenu du fait que UKIP a perdu son objet de par sa victoire même au référendum du 23 juin, on rappelle les résultats du référendum, près de 52% en faveur du retrait de l'Union européenne. Et puis hier, la toute nouvelle présidente de UKIP a démissionné. On n'en a pas fini. Le parti conservateur est le grand perdant. Le parti travailliste semble, lui, divisé en profondeur et son chef, réélu fin septembre, est clairement contesté de plusieurs côtés. Alors on le voit, le paysage partisan est particulièrement sombre. Les deux grands partis sont ébranlés. Ils avaient pourtant fondé l'alternance historique. Donc les deux grands partis ébranlés. Pauline Schnapper.
Oui, tout à fait, c'est le cas des deux partis, mais de manière un peu différente. Le Parti conservateur s'est surtout divisé pendant la campagne. Ça a été un vrai déchirement entre les partisans du maintien dans l'Union européenne et ceux qui voulaient en sortir. On peut dire que malgré le choc qu'a été quand même ce scrutin et la démission immédiate de David Cameron, il a quand même réussi assez vite à se reprendre et à se rallier autour de la candidature de Theresa May, qui a pu composer un gouvernement et être soutenu par sa majorité au Parlement. Donc je dirais que le Parti conservateur, en apparence en tout cas, se sort plutôt mieux de cette grosse crise que représente le résultat du référendum que le Parti travailliste, qui est en pleine crise existentielle.
Alors peut-être un mot, Pauline Schnapper, et je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique à Paris 3, à Sorbonne Nouvelle. Est-ce que on peut dire un mot de Madame May, parce que dans la presse française, en tout cas, elle est très diaphane, transparente, opaque. Et quel rôle joue-t-elle ?
Alors, elle est effectivement mal connue, finalement, y compris au Royaume-Uni, même si c'est une femme politique qui a déjà beaucoup d'expérience. Elle a été élue pour la première fois en 97, donc ça fait presque 20 ans qu'elle est dans les couloirs du pouvoir, et elle a été ministre de l'Intérieur pendant le gouvernement Cameron, donc c'était un poste très important. Mais c'est vrai qu'on la connaît assez mal. C'est pas quelqu'un qui a des positions très très tranchées sur beaucoup de sujets. Pendant qu'elle était ministre de l'Intérieur, elle ne s'est pas vraiment écartée des sujets de son ministère. Elle s'est surtout manifestée par une opposition très forte à l'immigration et en se prononçant pour un contrôle strict de cette immigration au Royaume-Uni. Donc ça, évidemment, c'est important pour nous, pour la suite de la négociation sur le Brexit. Mais en dehors de cette question, on a assez peu d'idées, finalement, sur son positionnement idéologique. Tout ce qu'elle a fait apparaître depuis qu'elle a été élue Premier ministre en juillet, c'est la volonté de revenir partiellement au moins sur les objectifs de réduction des déficits publics. Et elle a montré une espèce de fibre sociale qui avait un peu disparu, ou même complètement disparu, sous son prédécesseur, mais qui en même temps n'est pas d'une originalité folle. Donc ça reste un personnage un petit peu mal connu et dont on attend qu'il prenne vraiment position sur les grands sujets, à commencer par le Brexit.
Et alors d'une certaine façon, elle est loyaliste à l'égard au moins du résultat du référendum du 23 juin, puisqu'elle dit quelque chose comme ça en français, le Brexit c'est le Brexit.
Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui était resté extrêmement prudente pendant la campagne référendaire. Elle avait pris position pour le maintien dans l'Union européenne, mais vraiment du bout des lèvres, sans le moindre enthousiasme. Et surtout, elle n'avait pas participé activement du tout à la campagne. Et donc, au lendemain des résultats, elle a pu se présenter comme une candidate qui allait unifier son parti, dans laquelle pouvaient se retrouver à la fois ceux qui étaient partisans du maintien et ceux qui, depuis le départ, voulaient sortir de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, elle a joué assez habilement. Mais bien sûr, cette ambiguïté ne va pas pouvoir tenir éternellement. Il y a un moment où elle va quand même devoir préciser ce qu'elle entend par sortir de l'Union européenne, parce qu'on sait qu'il y a toutes sortes de façons de le faire.
Alors comment interpréter cette date butoir qu'elle s'est donnée elle-même, et évidemment au Royaume-Uni, d'ici la fin mars 2017, donc le Royaume-Uni activera le fameux article 50 qui demande la sortie. Et comment apprécier ce délai qu'elle s'est donné elle-même ?
Alors, le fait de ne pas activer immédiatement l'article 50 était clairement lié au fait que personne à Londres n'était préparé au résultat de ce scrutin. Cameron avait d'ailleurs empêché l'administration du gouvernement d'envisager des scénarios en cas de Brexit. Donc tout le monde a été pris de court, y compris des gens qui en principe sont des professionnels et doivent se préparer à toutes les hypothèses. Donc il fallait gagner du temps d'abord pour étudier les différentes hypothèses et faire des choix. Donc c'est pour ça qu'elle a reculé la décision, mais elle ne pouvait pas le faire éternellement, d'abord parce qu'il y a une pression très forte de tout le camp du Leave pour qu'elle l'active. Et puis, on sait qu'il y a un délai de 2 ans entre le moment où l'article 50 sera activé et la sortie effective de l'Union européenne. Or, au printemps 2019, il y aura des élections au Parlement européen. On voyait mal les Britanniques élire de nouveaux députés européens pour quelques mois ou un an ou deux. Donc il faut, en principe, que cette procédure soit achevée avant le printemps 2019. Donc si on enlève 2 ans au printemps 2019, on arrive, bien sûr, à mars 2017 au plus tard.
Alors il y aura aujourd'hui, donc mercredi, un discours de clôture de la Première ministre, Madame May. On verra un peu plus tard. En ce qui concerne maintenant le parti travailliste, alors il a l'air, ce qui est frappant, c'est qu'il a l'air profondément divisé.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je dirais que là, le référendum sur l'Europe a accentué des problèmes de fond qui étaient déjà présents depuis au moins un an, hein, et qui suivaient la double défaite des travaillistes en 2010 et en 2015, et l'élection inattendue d'un leader venu de la vieille gauche, Jeremy Corbyn. Donc il y avait déjà un problème profond au sein du parti, et assez nouveau, de dichotomie entre un leadership soutenu par la base militante et des élus qui, sur le plan idéologique, étaient vraiment un autre, tout à fait sur une autre planète. Donc il y avait déjà ce problème de fond, et puis le scrutin du 23 juin a provoqué la crise parce que les députés, les élus travaillistes ont reproché, à juste titre d'ailleurs, à leur leader de n'avoir pas fait suffisamment campagne pour rester dans l'Union européenne.
Oui, on a dit qu'il avait eu une campagne électorale équivoque ou ambiguë à l'égard du retrait ou du maintien.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il a fait officiellement campagne pour rester, mais tout le monde savait qu'il venait de l'aile gauche, donc du parti qui traditionnellement dans les années 70-80 était très opposé à l'Europe et que donc son ralliement était disons sans enthousiasme, et il a fait quelques discours pendant la campagne dans lesquels il disait qu'il finissait par dire qu'il fallait rester dans l'Union européenne, mais après l'avoir critiqué pendant plusieurs minutes en général. Donc c'était vraiment pas une campagne très très motivante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de fait, on sait qu'environ le tiers des électeurs travaillistes n'a pas voté pour rester dans l'Union européenne. Et donc la crise actuelle du parti a été provoquée par ce résultat du référendum, même si c'est en fait une crise qui va bien au-delà de la question européenne, qui est vraiment une crise idéologique de fond sur l'avenir de la social-démocratie au Royaume-Uni.
Oui, et puis une crise de fond d'ailleurs dans l'ensemble des pays européens, enfin la plupart, on voit l'Allemagne,
absolument,
on voit l'Espagne, la France, on voit le Royaume-Uni bien sûr, et la France pour se citer en dernier, mais où les deux grands partis de gouvernement alternance droite-gauche ne sont émiettés, éclatés, ne fonctionnent plus, c'est une question de fond pour l'Europe.
Absolument.
Alors juste, il a été réélu, M. Corbyn, fin septembre, à la tête du Parti travailliste. Comment l'interpréter? Juste d'un mot.
D'un mot, de la même façon que ce qui s'était passé un an avant, c'est-à-dire que il y a eu un vote assez massif, 60% des militants de base qui l'ont élu contre l'avis de la très grosse majorité des élus. Donc la dichotomie demeure et le problème reste entier pour se faire élire en 2020 ou plus tard, enfin gagner les élections, disons, législatives prochaines.
Ce qui veut dire que, ou non, que les petits partis qui ne sont pas si nombreux au Royaume-Uni pourraient reprendre du poil de la bête, profitant de l'affaiblissement des deux grands partis traditionnels.
Alors, oui et non, parce qu'ils sont vraiment contraints par le mode de scrutin,
oui, c'est ça,
majoritaire
un tour.
Ouais. Qui fait qu'il est extrêmement difficile pour des petits partis, même assez populaires dans l'opinion publique, de remporter des sièges au Parlement. Donc c'est un système qui est à la fois en crise et en même temps complètement bloqué. C'est-à-dire que, faute de réforme du mode de scrutin, on voit mal comment sortir des problèmes actuels de représentation de ces deux grands partis.
Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle, franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger.
Merci Thierry Garcin. Et demain, retour aux États-Unis comme lundi, mais cette fois autour de Barack Obama.
Que reste-t-il du pivot asiatique de Barack Obama? Notre invité sera Philippe Lecor, qui est chercheur invité à la Brookings à Washington.